Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 10h midi de Sud Radio avec vous pendant 2 heures en direct pour commenter l'actualité, l'actualité des médias entre 10h et 11h avec Jules Ganzmann et Rémi Pernelet. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ils dorment, ils dorment, ils ne sont
bonjour.
Pas réveillés.
Si, bonjour, Gilles,
ils attendent,
un peu
ils sont,
endormi.
Ils guettent la porte d'entrée, ils guettent Adriana Carambeu qui va arriver. Elle sera avec nous dans quelques instants en direct pour nous parler de l'émission de ce soir avec Michel Simès, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Elle est un petit peu enrhumée, figurez-vous, Adriana.
Enfin, elle est dans les studios,
elle
va être retardée.
Je tombe pas malade,
voilà.
Adriana.
Et ben voilà. Écoutez, elle sera avec nous, on est ravis de la recevoir. Et puis, débat à partir de 10h40 sur la publicité à la télévision. Êtes-vous favorable à ce qu'on supprime la publicité sur le service public? C'est en tout cas ce qu'a émis comme souhait le nouveau ministre de la Culture. On en parlera. Oui, bah si, quand même, non?
C'est oui, il avait émis ce souhait, je vous en parlerai tout à l'heure, avant d'être ministre. Et puis là, il met un tout petit peu d'eau
c'est
quand même.
C'est compliqué. Oui. Allez, on y reviendra dans quelques instants. On va commencer avec les audiences.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Découvrons les audiences et découvrons le... Oh, allez, on commence avec le gadin, parce que c'est, c'est quand même le gadin de l'année, voire de la décennie. Là,
je ne recule devant rien pour vous faire plaisir, Valérie.
Non, mais ça ne me fait pas plaisir.
Gadin, effectivement, parce que c'est un gadin historique pour le nouveau jeu de France 3, premier de cordée. Ben, en l'occurrence, la cordée a sévèrement dévissé. Seulement 477 000 téléspectateurs, 2,1% de part de marché pour ce jeu qui est animé par Fanny Agostini.
Ben,
c'est le pire score de France 3, évidemment, en 2018, mais je pense que, là, je n'ai pas pu vérifier sur la totalité, mais ça peut être le pire score historique de la chaîne. Hein. 477 000 téléspectateurs en prime time pour France 3. J'ai pas souvenir de pire.
La question est quand même, on peut s'interroger, le service public qui produit des choses aussi mauvaises que ça, parce que c'était vraiment mauvais.
Alors nous, on ne nous l'a pas montré avant, mais il y a Le Parisien qui avait fait un papier qui l'avait vu avant et qui avait, je crois, été qui était extrêmement sévère. Pourquoi on met ça à l'antenne?
C'est un peu la question. 460. Et combien ça coûte, rapport qualité-prix?
Surtout qu'il y a des tournages en montagne.
Ça a coûté assez cher. Donc
je pense qu'il faut compter 300 000, entre 300 000 et 400 000 sur un prime comme ça.
Merci. Voilà, merci. Argent public. On passe
au carton, un peu de bonne humeur. C'était hier pour L'Amour est dans le Pré sur M6. 4 432 000 téléspectateurs, 16,3 de part de marché. 200 000 de plus que la semaine dernière. C'était le bilan de l'émission de rencontre de Karine Le Marchand, qui était assez nettement en tête quand même des chaînes généralistes hier, devant le premier épisode de la saison 15 d'Une famille formidable sur TF1. 4 025 000 téléspectateurs, 16,3 de part de marché. C'est 200 000 de plus que Joséphine la semaine dernière, mais c'est 500 pas, 000 de moins, non, c'est pas terrible, que le premier épisode de la saison 14 l'an dernier.
Vous croyez qu'ils ont raison d'arrêter du coup cette série?
Alors de toute façon, Annie Dupéret et Bernard Lecoq expliquent que c'est leur dernière saison, ils le feront plus. Est-ce qu'ils peuvent faire un spin-off
du score très bas d'une famille formidable?
Je vous rappelle que la semaine dernière, Joséphine a fait 3,8 millions. Donc, ce sont en ce moment des scores qui ne sont pas exceptionnels.
Les Français aiment bien, ils ont grandi avec La Famille Formidable.
Vous avez raison d'être surpris, puisqu'on a tous perdu. Hein. On avait pronostiqué la victoire d'Une famille formidable. Ils ont été battus.
Quand on perd, vous le signalez. Quand on gagne, vous le signalez pas.
J'aime bien signaler quand vous perdez.
Samedi, nous avions gagné tous les deux, Valérie, puisqu'on avait prévu.
Ça a été très légèrement, très, très, très peu évoqué.
Gilles, quand vous gagnez, il n'y a pas de problème. Vous n'oubliez pas, vous le redites le lendemain. Si on a oublié de le dire la veille. Je pense que même si on dit un jour, vous pouvez le redire le lendemain quand même.
Allez, c'est mon côté winner. Et puis la surprise?
La surprise, c'est le très bon score des chaînes de la TNT. Alors évidemment, je pense que c'est une conséquence du flop de France 3. Ouais. Voilà. 1 884 000 téléspectateurs pour W9 avec Red 2. La semaine dernière, Red 1 avait passé la barre des 2 millions. Ouais. 1 285 000 téléspectateurs pour TMC.
Valérie, elle a un peu gagné.
Avec Star Wars 7. Tout à fait. Et 1 219 000 téléspectateurs pour TFX. Le match de foot entre l'Allemagne et les Pays-Bas qui a fait 800 000 téléspectateurs de plus que la semaine précédente. C'est un excellent score pour le match que nous conseillait Grégoire Margoton hier dans les 30 secondes pour convaincre. Il avait raison, il y avait un enjeu. D'ailleurs, ça fait que la France n'est pas qualifiée quand même puisqu'il y a eu match nul entre les deux équipes.
Ouais.
Mais 1,2 million pour TFX, c'est également un record.
Oui, absolument. Allez, on a Saïd en ligne avec nous. Bonjour Saïd.
Saïda,
pardon, il manquait le A. Bonjour Saïda, comment allez-vous?
Bonjour à vous. Ben, je vais bien, je vous remercie. Et vous-même?
Alors, très bien. Vous avez regardé quoi, vous, à la télévision hier soir?
Alors, j'ai regardé L'Amour est dans le Pré.
D'accord, vous êtes une fidèle téléspectatrice de ce programme?
Bah, non, pas forcément. Alors moi, je regarde toujours le début et puis la fin pour voir un petit peu ce qui se passe.
Et au milieu, vous faites quoi?
Au milieu, je regarde autre chose.
Et alors, vous avez regardé quoi au milieu hier?
Le premier et dernier épisode.
J'avais cru que c'était dans l'épisode. D'accord. Et alors, vous avez aimé ce que vous avez vu hier soir?
Oui, parce que je me dis quand même, les gens sont capables de mettre comme ça, d'étaler leur vie au grand jour. Et puis, en même temps, je me dis, il y a énormément de personnes célibataires et ils sont prêts quand même à passer à la télé pour pouvoir trouver l'amour. Ouais. Franchement, je pense qu'ils sont courageux.
Ouais. Vous avez vu, Saïda, hier, qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui, cette année, se sont rencontrés. Hein. C'était presque échec sur échec.
Tout à fait. Justement, c'est ce que j'ai été en train de penser, surtout par rapport à je sais plus comment il s'appelle, la dernière personne qui était passée, où il décide. Ah voilà, Caroline, c'est ça. Oui. Ça s'est pas très bien passé. Et puis même devant la télé, il y a quand même des conflits. Hein.
Oui, absolument. Merci Saïda en tout cas de nous avoir appelé. 0826 300 300, tous les matins. On prend un appel d'un auditeur qui nous raconte ce qu'il a vu à la télévision hier soir. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, Jean-Pierre Pernaut, dans son 13h sur TF1, il présentait les 30 Miss France. Les 30 Miss en compétition pour le titre de Miss France 2019.
S'il y en avait 30...
Donc, elles étaient toutes là sur le plateau. Et une 31e Miss, c'était Lynn Renaud qui va être la présidente du jury de cette année.
Qui est composée que de femmes.
J'allais en parler juste après, mais lui, absolument. Non, pas du tout, Valérie, vous êtes la chef. Et vous allez voir que Lynn Renaud vit un rêve éveillé.
Ça représente quoi pour vous, une élection de Miss France et d'être là aujourd'hui?
Déjà, un rendez-vous extrêmement populaire, et j'aime ce qui est populaire, vous le savez. Ça représente un rendez-vous avec l'élégance, la beauté, la classe. Et toutes ces jeunes filles, surtout maintenant, vous allez nous faire rêver. On ne rêve plus assez.
On a besoin de rêver, surtout en ce moment, ça fait du bien aussi.
Et nous allons passer... comme un rêve d'enfant, comme un conte de fées. Quand on était enfant, les jolies robes, la couronne. Voilà. On va rêver.
Bon, voilà, on va rêver. Donc, à noter, vous l'avez dit, que le jury sera exclusivement féminin. Alors, moi, je trouve ça, d'une stupidité.
Pourquoi? Bon, c'est marrant.
C'est un effet de mode.
Bon, c'est marrant.
Les garçons, ils n'ont plus le droit de regarder, ni de juger.
Pour une fois. On est à la 100e édition.
Mais vous avez gagné, les femmes, les hommes n'existent plus.
C'est moi, je trouve ça marrant. Non, mais je trouve ça marrant.
Vous allez juger les miss, moi, ça me choque.
Ah bon, ça vous dérange? Vous auriez bien aimé, ça vous manque beaucoup de ne pas juger les miss.
Personnel, monsieur Rémi Pernaut.
Allez, autre son.
Non, ça vous choque pas, moi,
non,
que
pas du tout, pas du tout. C'est marrant, faut bien créer un peu de spectacle, faut bien que ça. Voilà, faut créer des nouveautés, il y a 3 miss qui vont faire partie du jury. Vous qui êtes réalisateur, producteur, faut bien créer un peu de happening.
Moi, je demande à tous les hommes de ne pas appeler, de ne pas voter. Voilà. Ils feront moins d'argent. Sur C8.
N'importe quoi.
Moi, ça m'a choqué. Sur C8, c'était un peu le
rendez-vous. Ça vous passera, Gilles.
C'était un peu le rendez-vous de la carpe et du lapin, car Cyril Hanouna recevait Mireille Mathieu.
Ouais, c'était assez étonnant.
72 ans, toujours pétillante, toujours en forme. Elle est venue faire la promo de son nouvel album et vous allez entendre que l'émotion l'a submergée quand elle en a parlé.
J'ai dédié ce CD, ce double vinyle, à ma petite maman, avant que ma maman ne parte. Je lui ai chanté des chansons. Elle savait que j'allais faire un CD classique. Et donc, là où elle est, j'espère qu'elle m'entend et qu'elle est heureuse.
Elle doit être fière de toi.
Je ne sais pas, je l'espère en tout cas. Et aussi à toute ma famille, parce que maintenant, c'est moi qui suis l'aînée. Donc, je suis auprès de toute ma famille. Nous sommes 14 enfants. Alors, j'espère que... Je sais qu'ils nous regardent ce soir, mes frères, mes sœurs et toute ma famille. Et que maman qui est au ciel avec mon papa soit heureux.
Voilà. C'était assez étonnant parce que tout le public était déguisé en Mireille Mathieu, tous les chroniqueurs. Effectivement, il y avait un petit décalage
entre son émotion,
le public. Mais écoute, c'est une chanteuse populaire.
Exactement. Mais elle avait la forme. Et un autre qui pète la forme, c'est le grand retour de François Hollande, qui était dans C'est à vous sur France 5. Et l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine l'ont fait réagir au livre de son ex, Ségolène Royal.
Pour un président normal, elle vous a trouvé désinvolte.
Oui, je ne sais pas à quoi elle a pu faire allusion, parce que dans ce quinquennat,
qui a été marqué par beaucoup d'épreuves, c'était pas le temps de la légèreté. Quand il s'agissait de répondre aux attentats ou d'être prêt à faire intervenir nos forces, tout a été difficile, tout a été exigeant.
Voilà la réponse.
Est-ce que Mireille Mathieu a fait mieux que François Hollande?
Moins bien, si Florence. Ah bon, oui, François Hollande, 1 336 000. Enfin, c'est à vous. 1 336 000. Ouais. Et touche pas à mon poste, 1 223 000. Donc
François Hollande a fait mieux que Mireille Mathieu.
Ouais, gros score, quand même.
Ouais. C'est à vous. Pas mal.
Et pour finir, dans Quotidien sur TMC, ils se sont une fois moqués de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, il faut dire que dès l'annonce, vous savez, du décès qui a eu lieu lors d'une opération de Gilets jaunes samedi matin, il avait un seul mot d'ordre. Pas de récupération de l'accident.
Ce drame, bien sûr, il endeuille ce mouvement. Pour autant, ne l'instrumentalisons pas dans un sens ou dans un autre.
Et vous savez ce qu'il a fait? Évidemment, toute la journée, il a été sur toutes les chaînes. Il a dit quoi? Pas de récupération du mouvement?
Combien de morts faudra-t-il pour que le gouvernement réagisse?
Il y a cette femme qui est tragiquement morte.
Vous croyez que les gens ont pris des risques avec ce drame de cette femme qui est morte par plaisir?
Si on veut éviter d'autres drames, il faut que le gouvernement, maintenant, arrête.
Ah, c'est quand même savoureux quand Quotidien fait ça. Et quand
il y a d'ailleurs, l'audience de Quotidien, 1 646 000, ouais. Donc ils sont très nettement en tête. Avec, dès qu'il y a de l'actualité, hein, ils sont vraiment très nettement favorisés. Puisque, bon, c'est à vous, c'est de l'entretien. Mais TPMP sur le divertissement, bah, en fait, ils sont battus en ce moment très régulièrement par Quotidien, qui avait Jean-Paul Rouve comme invité, mais qui a surtout surfé sur l'actualité.
Ouais. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec Adriana Carambeu, 0826-300-300. Si vous, auditeurs de Sud Radio, avez envie de dialoguer avec Adriana Carambeu, nous vous donnons la parole. Elle vient pour nous parler donc de l'émission qui sera diffusée ce soir, qu'elle anime avec Michel Simès, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. A tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Adriana Carambeu. Bonjour Adriana.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin avec nous. Vous êtes malade, je l'ai dit tout à l'heure,
un petit peu
enrhumée.
Oui.
C'est possible, Adriana Carambeu, que vous soyez malade. Vous êtes tellement parfaite qu'on se demande.
Oh, bah, dis donc, merci pour le compliment. Je suis loin d'être parfaite.
Donc vous êtes un petit peu enrhumée en tout cas. Donc merci encore une fois d'être là en direct avec nous. On va parler de l'émission qui sera diffusée ce soir sur France 2 à 21h dans le cadre de la série des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Comment vivre jusqu'à 120 ans, comment vieillir jeune. Alors, est-ce que c'est du boulot déjà d'être Adriana Carambeu?
Oh, qu'est-ce que ça veut dire, oh my god.
Mais parce que vous changez pas, vous vieillissez pas, vous êtes très belle. Et
regardez de plus près.
Non, vous n'êtes pas ride, vous êtes
même
belle.
De plus près.
Oui, je vous. Et en plus, il est tôt, hein, quoi que non.
Non, pas si tôt que ça.
Non, mais c'est que, ce qu'on essaie de dire dans cette émission, c'est en fait, tout le monde veut vivre longtemps.
Oui.
On a dit comment faire pour vivre jusqu'à 120 ans, mais bon, on n'est pas si loin de but, parce qu'un enfant sur trois qui va être né aujourd'hui va vivre 100 ans quand même. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'on peut améliorer, on peut influencer nos gènes.
C'est ça qui est très fort, et on peut agir sur notre vieillissement. C'est
À 80%, ouais. On peut modifier l'expression de nos gènes avec des choses très simples, avec alimentation, avec activité physique. Bien sûr, pas fumer, pas boire trop d'alcool, mais ce sont des gestes ou des astuces assez simples pour éviter 80% des maladies chroniques. J'étais choquée dans cette émission d'apprendre ça, quoi, parce que c'est à ce point. Donc, on donne beaucoup d'astuces, comme d'habitude, avec Michel. Beaucoup de conseils.
Alors, on vit jusqu'à 100 ans, mais on s'est bien fait chier, quand même. Hein.
Bah là,
on n'a pas mangé, on n'a pas bu.
Mais pas du tout, parce qu'il faut se faire plaisir. Hein.
Oui, il y a le régime méditerranéen, c'est ce qu'il racontait un petit peu.
Les frites, quand même, de temps en temps.
Manger des frites, Adriana.
Mais quand même, et comment? Mais moi, je pense que, franchement, il faut se laisser guider par un peu le bon sens. Parce que le régime méditerranéen, c'est quand même une nourriture très agréable. On mange beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, des oméga-3 qui sont dans l'huile de colza. Et puis, on se fait plaisir. Bien sûr, sans plaisir, on peut pas être heureux.
Alors, on va revenir à l'émission. Juste, en général, quand je commence l'émission, je tape votre nom sur Google. Alors, Adriana, vous êtes la Adriana la plus célèbre, puisque c'est vous qui arrivez en premier. Quand on tape Adriana, c'est Adriana Carambeu qui sort en premier.
Donc.
Alors ensuite, dans les questions qu'on se pose sur vous, là où les internautes vont chercher Adriana Carambeu, il y a enceinte, vous avez accouché il y a 3 mois d'une petite fille. Ensuite, il y a âge, taille, vous mesurez combien?
1m84 et demi.
Voilà. Après, il y a
le demi est très important.
Le demi est très important. Jeune, vous l'êtes toujours. Il y a mariage, bébé, fille. Donc voilà, il y a beaucoup de questions autour de votre vie privée. Vous la protégez d'ailleurs plutôt votre vie privée. Vous faites attention à votre santé, vous, au quotidien. Vous êtes préoccupée. Qu'est-ce que vous faites pour justement vieillir mieux?
En fait, ma mère était médecin, donc on a toujours baigné dans ce milieu médical. Ma grand-mère était infirmière. Moi, je fais 3 ans de médecine. Donc, des questions santé, on en parlait beaucoup
donc
à la maison.
C'est du bon sens, c'est ça?
Oui, c'est le bon sens. Et puis on a tous envie. Dans la famille, oui, c'était un peu des sujets communs. Et puis, cette émission, c'est grâce à cette émission, on a appris énormément de choses. Je le fais avec Michel depuis maintenant 6 ans.
Ouais.
Et ça influence. Moi, je vois dans mon entourage. Moi-même, j'ai appris sur l'alimentation, par exemple, énormément. Mon mari, il a perdu 20 kilos.
C'est vrai.
À cause de vous.
Grâce à vous.
Grâce. Et en plus, je ne l'ai vraiment pas incité. Moi, je l'aimais. Ouais. Il avait un peu de
mais
ventre.
Mais c'est quoi, en regardant l'émission?
Un peu beaucoup. Mais... Oui. Parce qu'à chaque fois, je lis mes fiches à la maison. Du coup, je le passe à lui. Comme ça, il apprend aussi. Et on a changé complètement notre façon de s'alimenter depuis. On l'a fait la première sur l'alimentation, je crois, il y a 4 ans.
Oui.
Et ça a complètement changé. Et pourtant, plus gourmand que nous deux, il n'y a pas.
C'est vrai. Et donc, vous avez changé grâce à
l'émission. On a changé quelque chose. Et puis vraiment, Dieu sait comment on est mangé et comment on continue de se faire plaisir.
Ouais. Rémi ?
Il y a plein de choses incroyables dans cette émission. Et notamment, on apprend un nouveau mot, c'est l'épigénétique. Mm-hmm. Vous connaissiez
Je ne connaissais pas du tout.
C'est incroyable. C'est le docteur Gilbert Deray, qui est à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière, qui raconte quand même comment on peut influer sur notre propre code génétique.
Mais c'est incroyable. Je n'étais pas du tout au courant. Et je pense à 80%. C'est hallucinant. Et qu'avec notre mode de vie qui est soigné, on peut transmettre ça à nos enfants.
Ouais.
C'est-à-dire, si on ne fume pas et si on fait activité physique dans notre vie, ça va passer à nos enfants.
Et il y a aussi, alors, Michel Simès, comme d'habitude, qui se prête à des expériences. Bon, alors, il tente le surf, mais surtout, il se met à courir le 100 mètres. Et donc, il court en 16 secondes quelque chose. C'est incroyable, hein.
Petit il a malin triché un peu. Pas du tout.
Non. Il s'était entraîné spécialement?
Non, pas du tout. Lui, il fait pas mal de sport. Il fait beaucoup de vélo. Il s'occupe de lui pas mal. Mais courir 100 mètres, c'est pas évident. Hein.
Ouais.
Moi, j'aurais fait parce que j'étais curieuse, mais j'étais enceinte. Donc, c'était pas
possible. Vous faites du sport, vous?
On s'est mis, justement, grâce à cette émission, avec mon mari, il s'est mis au sport, du coup, je me suis mis aussi.
Vous avez retrouvé la ligne, hein, je peux le dire, on est à la radio, les gens ne vous voient pas, mais c'est impressionnant. Hein.
C'est impressionnant, mais je me suis surpris moi-même, je ne me suis pas attendue à ça. J'ai acheté des vêtements énormes pour justement d'être enceinte et après grossesse, normal, hein, d'avoir plus de kilos, et puis non.
Vous aviez pris beaucoup de poids ou pas?
J'ai pris 0 kilo.
Qu'est-ce qu'elle est énorme.
Ça limite pas bien. Hein.
Oui,
j'ai,
non,
j'ai pas fait exprès, mais au début, j'étais
c'est
malade.
C'est votre nature, quand on parle des gènes et de la nature.
J'en sais rien.
0 kilo, mais donc c'est normal. Enfin, aucun mérite d'avoir récupéré la ligne.
Enfin, sur M6, avec My Horn, le sport, c'était pas trop votre truc. Hein. Ça a été dur hein, sur M6. Vous avez eu au téléphone, sur l'aventure, ça avait été compliqué à l'époque.
Ouais, c'était pas mon truc, c'était le truc à personne.
Personne ne peut suivre My Horn.
Himalaya, non, mais c'est pas possible.
Tout le monde a eu une aventure compliquée avec My Horn.
J'étais contente de vraiment revenir vivante
de ce truc-là. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826-300-300, si vous voulez dialoguer avec Adriana Carambeu. On est ensemble jusqu'à 11h. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on est en direct avec Adriana Carambeu. Ce soir, elle sera sur France 2 avec Michel Simès à partir de 21h. Vieillir jeune, comment vivre jusqu'à 120 ans, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. On a Geneviève en ligne avec nous qui voulait vous parler, Adriana. Bonjour Geneviève.
Bonjour, bonjour Adriana.
Bonjour.
Je tenais à vous appeler pour vous dire combien j'apprécie à chaque fois que je vous vois dans une émission. Je n'ai jamais oublié votre émotion lorsque vous avez quitté la famille dans le cadre de Voyage en Terre Inconnue. cette émotion m'a touché le cœur et j'en ai encore des frissons.
Voilà, c'est adorable, c'est vraiment très gentil.
Et d'autre part, j'écoute, j'aime beaucoup Michel Simès et je ne rate pas une de vos émissions. Une de ces émissions, parce que vous ne les faites pas toutes, mais pour le voyage encore dans le corps inconnu.
Oui, c'est vous mélangez les émissions, mais c'est les pouvoirs, c'est quoi, voyage en terre inconnue
oui, ou non, 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 les pouvoirs extraordinaires, oui, pouvoir
extraordinaire du corps humain.
Absolument. Je voulais vous dire ce que j'apprécie en vous. J'apprécie énormément votre douceur, votre sensibilité.
Eh ben.
Votre.
Vous êtes une vraie fan, Geneviève.
Ah oui. Votre sérénité et votre comment
simplicité peut-être, non
simplicité, est... voilà.
Merci beaucoup Geneviève.
Geneviève, c'est adorable.
Mais je peux vous dire qu'en studio, elle est absolument charmante. Vous savez, parfois les gens font semblant. Non, elle est comme ça, Adriana, elle est simple, et elle puis, est sympa et
moi,
généreuse.
Et moi, Valérie, qui travaille sur une production qui s'appelle Top Model Belgium, je peux vous dire que... elle qui est la marraine de cet événement depuis de nombreuses années en Belgique, quand elle vient tout le week-end, elle soutient, il y a à peu près 100 à 140 personnes qui veulent devenir mannequins. C'est un grand concours qui existe en Belgique. Et elle est là toute la journée. Elle leur parle, elle discute, elle est accessible. Les filles viennent vous voir, vous leur donnez plein de conseils.
Vous avez bien fait de venir.
C'est vrai.
Compliment.
Vieillir jusqu'à 120 ans, c'est quelque chose qui vous plairait
Oui, ça me plairait, comme tout le monde, je pense, à condition qu'on vit en bonne santé. C'est vrai que de souffrir, ça ne sert à rien. Important d'avoir toute sa tête. D'ailleurs, on parle dans notre émission de muscler, entre guillemets, notre cerveau. C'est important de faire de mémoriser des numéros de téléphone ou des recettes.
Mais c'est des petits trucs que vous donnez pendant l'émission qui aident.
Mémoire, entretenir mémoire, c'est important.
Mais quand oui, aussi dépister les baisses d'audition, c'est important.
Parce que ça nous coupe de la vie sociale si on n'entend pas bien.
Mais quand son métier, c'est la beauté, on n'a pas peur de vieillir.
Si, on a peur de vieillir. Moi, je me souviens à 40 ans que comme ça commence d'être un peu moins parfait. Je me suis mal exprimée.
Oui.
Ça commence d'être un peu moins bien.
Ouais.
On se pose la question. Ouais. Pour les jolies femmes, pour moi, c'est un fonds de commerce. Donc forcément, je me dis, je perds mes moyens. Et puis, on se rend compte qu'il y en a d'autres.
Maintenant, il y a Photoshop, il y a d'autres choses, non?
Oh, c'est pas seulement ça. Dans la vraie vie, Photoshop ne va pas vous sauver. Hein.
Et la chirurgie esthétique?
Aussi.
Vous pensez qu'il ne faut pas hésiter? Vous donneriez ce conseil?
Je pense qu'on diabolise beaucoup trop. Après, c'est vrai qu'on a tendance de voir... On voit beaucoup de femmes qui en ont fait beaucoup trop et que ça se voit beaucoup trop.
Mais il y a aussi des choses qui sont très très bien faites et la chirurgie esthétique a fait beaucoup de progrès.
Bien sûr, mais je pense que ça parle aussi de notre psychisme. Quand on se sent déstabilisé ou on a peur de vieillir, on a tendance d'en faire trop.
Vous aimeriez revenir à 20 ans? L'émission commence comme ça avec Michel Simès, où vous regardez tous les deux dans le miroir et Michel dit non, moi j'aurais pas du tout envie de revenir à 20 ans.
Moi j'ai menti. J'aurais aimé et franchement,
vous aimeriez revenir à 20 ans?
Il ment.
Ouais. Parce que oui, c'est vrai que c'est en général on dit ouais, non, je suis beaucoup mieux maintenant.
Non, n'importe quoi.
Non, n'importe quoi. Non,
vous pensez qu'il ment aussi, Michel?
Bien sûr.
Rémi?
Il avait des arguments pourtant. Oui. Mais on voit beaucoup de personnes justement avec un certain âge. Marie Chou, qui est ancienne championne de surf. On voit plusieurs personnages quand même qui je trouve, sont extrêmement plus que réconfortant, c'est vraiment inspirant par rapport à la façon dont ils vivent aujourd'hui. Donc voilà, bien sûr, on vous pose la question, vous répondez, c'est un peu brutal, mais je trouve que c'est très positif, cette émission.
C'était de belles exemples. Marie Chou qu'on a vu avec le surf, ou la petite dame qui fait yoga.
Ouais,
c'est quand même incroyable, c'est des bons exemples. Après, c'est peut-être qu'on ne va pas atteindre leur stade, mais de faire, de bouger, c'est quelques règles. Au début, c'est compliqué, c'est difficile. On n'a pas envie, comme il pleut, quand on a froid, on a trop à faire, on est fatigué. Mais franchement, une demi-heure, tout le monde peut trouver. Ouais. Puis j'ai sorti un livre sur bien-être il y a pas longtemps, et c'est vraiment... On n'a besoin même pas de matériel, même pas de salle de sport. C'est à côté de notre lit, on fait quelques trucs. Il reste que de s'étirer le matin, ça change déjà beaucoup de choses.
Oui, c'est ce que vous dites, il faut s'y mettre. On n'a pas envie, mais quand on comprend, on voit que ça peut réduire de 30 à 40% les risques de cancer quand on a une activité physique d'une demi-heure par jour. C'est important de se motiver, effectivement, pour le faire.
Il y a des courbes qui sont montrées, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la courbe moyenne des gens qui n'ont pas d'activité physique, la courbe des champions olympiques, tous sur les... ils ont 7 ans en moyenne, je crois,
de plus.
Et puis, on peut faire des calculs avec ce qu'a fait le médecin qui a fait ça avec Michel Simès. Et on voit que, par exemple, si on continue comme ça, on est assuré. Bon, on ne peut pas dire ça, mais espérance de vie, 90 ans.
Boom, oui, c'est ce qu'il a prédit à Michel avec sa vitesse de course à 16 km, presque 17 km heure. Oui, Michel va vivre 90 ans.
Ouais.
Bien, hein, il était content.
Hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un magazine de stupéfiants consacré aux modèles, et aux top modèles et aux nus, et un peu à l'affaire MeToo. Quel regard vous portez sur tout ce qui s'est passé autour du mannequinat où il y a beaucoup de photographes qui sont un peu tombés aux États-Unis parce qu'ils abusaient un peu des modèles. Vous avez un regard forcément là-dessus?
J'ai pas vu l'émission car j'étais avec mon bébé. Ouais. Hein, ma vie a changé depuis. Ouais. Donc c'était dans quel esprit que les photographes abusent
des top modèles, c'était un
leur,
peu sur
de leur jeunesse.
Puis sur le milieu MeToo, vous avez été victime de ce type de comportement.
Ça m'est arrivé. Et pourtant, j'étais pas complètement toute jeune. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Et c'est pour ça que je suis super contente que
les langues se délient et qu'on commence à dire les choses.
Il était temps. Après, c'est clair que quand vous avez des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, c'est très facile de les abîmer. Du coup, c'est important, je pense que... Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. À mon époque, c'était pas le cas parce que je venais d'ex-Tchécoslovaquie. Les parents sont assez présents, je trouve, pour les jeunes filles. Ils les accompagnent, ils les suivent, ils font le suivi, ils voyagent souvent avec elles. Donc ça, c'est bien. Parce que
vous l'avez entendu autour de vous.
À 16-17 ans, on a du mal à se défendre.
À l'époque, vous l'avez entendu, vous l'avez constaté, vous savez que c'est arrivé, par exemple?
Non, mais ça m'est arrivé encore... J'ai dit il y a
pas si longtemps que ça.
Du coup, moi, j'avais beaucoup de chance parce qu'à 16, 17, 18 ans, je me demande
est-ce que
j'aurais pu...
Vous n'avez pas fait les armes pour vous défendre.
À me défendre.
Les photographes étaient très manipulateurs.
J'aurais pris sur moi...
Et aujourd'hui, quand ça vous arrive, vous dites il n'y a pas si longtemps, vous rembarrez la personne
Malheureusement, je n'arrive pas à la trouver, personne-là.
Ah d'accord.
Mais je ne vais pas lâcher l'affaire.
D'accord, mais vous avez raison. Vous avez envie de continuer à faire de la télévision? L'animation de la télévision, c'est quelque chose qui vous plaît?
Ça m'est arrivé aussi au hasard.
Tout est arrivé au hasard, un peu dans votre vie.
C'est pas mon métier, j'ai pas fait formation.
Mais justement, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez continuer à animer d'autres choses?
J'ai fait plusieurs choses, et c'est vrai que quand j'ai une émission comme ça... en fait, ce qui me plaît à la télé, c'est d'avoir l'impression qu'on ne fait pas la télé.
Ouais.
Parce qu'avec Michel Simès, le pouvoir extraordinaire, ou les émissions que j'ai faites sur M6, j'avais pas vraiment l'impression que je suis à la télé. C'était des expériences comme si c'était fait pour moi, et j'apprécie énormément. Oui.
Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Vous la regardez?
J'adore la télé.
C'est vrai?
Vraiment. Grâce à la télé, moi, j'ai appris les langues. J'ai appris à parler
français,
anglais aussi, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais. Et du coup, je suis grande consommatrice des émissions. Je regarde des documentaires, je regarde des divertissements. Je regarde à peu près tout, ou beaucoup. Pas maintenant, parce que maintenant, c'est pas pareil. Ouais. Et puis, la télé interdit aux enfants jusqu'à 3 ans, j'ai lu.
Oui,
la télé,
elle
est éteinte en ce moment.
Toujours éteinte.
Oui, parce que ma fille, elle a vraiment... C'est hallucinant comment ça attire les bébés. Tout ce qui est téléphone portable ou la télé...
Les écrans, ça les fascine.
Vous
allez peut-être faire une émission bientôt sur le sujet, justement, des dangers des écrans
pourquoi pas
les enfants.
Non, mais en ce moment, on cache la télé.
C'est bien. Merci Adriana Carambeu, merci infiniment d'être venue ce matin sur Sud Radio. Donc ce soir, à ne pas manquer, Vieillir jeune, comment vivre jusqu'à 120 ans. Plein de trucs, Rémi, vous l'avez évoqué, beaucoup de petites...
Rémi, il a gagné 10 ans.
De conseils, voilà.
Et alors, J'avais déjà avant gagné 10 ans, donc ça, là, je redeviens carrément 20 ans. Là.
C'est dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Merci Adriana Carambeu. Et je le dis à tous ceux qui vous aiment, comme Geneviève qui nous a appelés, vous êtes aussi sympa dans la vie qu'à l'antenne. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants pour parler publicité. Est-ce qu'on doit supprimer la publicité du service public ? C'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio, on est ensemble entre 10h et midi, à 11h on commentera l'actualité et puis on va débattre, faut-il supprimer totalement la publicité sur le service public ? C'est une petite phrase du ministre de la Culture Franck Riester, la publicité ce n'est pas la priorité sur les groupes audiovisuels publics. Rémi, alors on va en débattre avec Jean-Maxence Granier, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes spécialiste des médias et des marques et vous êtes le président fondateur de Think Out et on va en reparler dans un instant également avec Frédéric Dumas. Bonjour, vous êtes député des Hauts-de-Seine, secrétaire national culture et audiovisuel de l'UDI et membre de la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Alors Rémi, la publicité à la télévision, ben oui, c'est une longue histoire.
Oui, c'est vrai, les rapports entre la télé et la publicité ont toujours été assez compliqués. Les premières pubs apparaissent en 1951 sur la RTF, c'est la radiodiffusion télévision française, la chaîne unique à l'époque. Et il s'agit d'abord de campagnes d'intérêt général comme la sécurité routière ou alors des secteurs de l'économie publique comme la Loterie Nationale ou la Caisse d'Épargne. Quelques émissions sont sponsorisées. Bon, à l'époque, le mot, ça n'existe pas. On dit émission parrainée. Voilà,
Pas parrainée.
Par exemple, Interville affiche des écrans publicitaires à l'époque pour Air Inter. Les premières pubs proprement dites apparaissent le 1er octobre 1968 sur la première chaîne, en 71 sur la deuxième chaîne et en 83 sur FR3. On va noter que la France est la plus conservatrice en matière de pub, puisque la Grande-Bretagne diffuse des pubs depuis 1955, l'Italie 57 et l'Allemagne depuis 1959. C'est avec l'apparition de la télévision privée en France en 1986 et puis la privatisation de TF1 en 87 que la publicité télé devient un secteur stratégique. Et alors la question du maintien ou de la suppression de la pub sur les chaînes publiques, ça devient un thème récurrent, un enjeu de débat avec des adversaires, des partisans qui ne sont pas toujours du même bord politique au fil des années.
Oui.
Dès 86, par exemple, un conseiller de Jacques Chirac, alors Premier ministre, raconte qu'il défendait déjà le principe à chaîne publique, fonds public, à télévision, fonds privés. C'est un principe qui ne sera pas adopté de peur d'exonérer les directions des chaînes publiques d'objectifs d'audience, bref, de faire de la télé culturelle de gauche sans public, vous voyez. En 89, Michel Rocard, Premier ministre, proposera lui aussi cette mesure, sans succès. Mais évidemment, le moment le plus spectaculaire de la pub sur la chaîne publique, c'est le 8 janvier 2008, lorsque lors de sa première conférence de presse, Nicolas Sarkozy déclare souhaiter la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. Ouais. C'est une initiative qui prend tout le monde de court, ministre de la Culture
et le
président
de France Télé. C'était une déclaration, personne ne l'attendait.
Personne n'était au courant, le président de France Télévisions, Patrick de Carolis, n'était pas au courant à l'époque. On connaît le résultat. La pub sera supprimée, mais seulement après 20 heures. Le coût pour France Télé de la suppression totale, qui était évalué entre 800 millions d'euros et plus d'un milliard, a poussé à ce compromis, déjà assez cher, puisque une étude a évalué à environ 150 millions par an le coût de cette suppression partielle. Malgré les mesures de compensation, vous savez, il y avait une taxe sur les pubs diffusées sur les chaînes privées et puis une taxe sur les opérateurs de téléphonie mobile. 10 ans plus tard, aujourd'hui, le débat refait donc surface, notamment suite aux nombreuses critiques du chef de l'État sur l'audiovisuel public, qualifié de « honte de la République », et puis à la nomination récente, le 16 septembre dernier, de Franck Riester comme ministre de la Culture et de la Communication. Franck Riester, lui, s'est souvent exprimé sur l'audiovisuel, c'est l'un de ses domaines de prédilection, notamment en décembre 2017, il y a moins d'un an, il déclarait au Monde « Ben tiens, à service public, financement public, à secteur privé, financement privé, in ça, fine... » Le financement de l'audiovisuel public devra se concentrer sur une redevance universelle et sur la diversification des ressources hors publicité.
Mais ça, c'était avant, peut-être.
Bah oui, on ne pouvait pas être plus clair. Mais comme d'habitude, avec l'entrée au gouvernement, son discours a un peu évolué, pas sur le fond, mais sur la forme. Sur la forme, il ne s'agit pas, alors je cite maintenant, il ne s'agit pas de casser le modèle économique actuel qui mixe publicité et redevance. Ça, c'est le 23 octobre dernier qu'il a déclaré ça, avant d'affirmer qu'il restait fidèle à ses principes, mais sur le temps long. Alors, en politique, le temps long, ça ressemble pas mal au calende grec, en général. Ouais. Surtout après avoir entendu Franck Riester, lors de cette même interview sur une radio, confirmer le chiffre de 160 millions d'euros d'économies réclamées par l'exécutif à France Télévisions d'ici 2022. Donc, des économies à faire, plus d'ambition, moins de revenus, bah, on va faire comment, monsieur le ministre ?
Ouais, ça va être compliqué. Alors, Max, est-ce que c'est possible, Jean-Maxence Granier, de supprimer la télévision sur le service public, déjà avant même de savoir si c'est souhaitable ?
Moi, je crois que Rémi a dit les choses justement. Une fois que le ministre est en place, il est plus modéré dans ses propos et il rappelle qu'il y a un modèle économique dans lequel, pour le service public, bien sûr, dans lequel la publicité joue un certain rôle. Et moi, je défends cette position-là justement pour garantir quelque part au service public des moyens, surtout à un moment où on voit que l'État est ce qu'il peut apporter est souvent renégocié et au fond c'est pas du tout pour remettre en cause le service public que je pense qu'il peut y avoir une part de publicité dans son financement, c'est au contraire pour le défendre, le protéger et qu'il ait les moyens de sa politique à côté évidemment d'autres formes de financement et du financement public qui demeure majoritaire. Oui. Et je remarque que d'ailleurs les décideurs publics sur cette question sont toujours prudents, c'est toujours négocié. Oui. Finalement, même la décision de Sarkozy, un peu brutale, et à l'époque, on lui avait fait le procès de faire le jeu des acteurs privés, elle avait été relativisée, c'est seulement après 20h. Et puis, il y a des formes publicitaires après 20h qui demeurent. Ouais. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et je comprends parfaitement l'argument de la différence entre le privé et le public, mais je pense que ça ne se joue pas entre de la publicité ou pas de publicité, mais dans la manière de traiter le publicitaire dans l'espace public qui, pour le coup, doit être différencié et l'est en partie.
Alors, Frédéric Dumas, quelle est votre position à vous sur ce sujet ?
Alors, je vais vous donner ma position sur ce sujet, mais ensuite, je donnerai quand même une observation plus générale. Sur ce sujet, j'ai travaillé un rapport qui a été remis en mai, où effectivement, je vais dans le même sens. Je pense que la présence de la publicité à la télévision sur le service public est nécessaire.
Vous ne vous prononciez pas dans le rapport. Hein. Vous disiez, concernant le maintien ou non de la publicité sur le service public, nous n'avons pas souhaité de conclusion définitive. C'était dans votre rapport. Oui.
Non, vous avez raison, puisque c'était une aide à la décision, mais en tout cas, le raisonnement qui précédait expliquait c'était effectivement plutôt, ça pouvait être une bonne chose malgré tout ce qu'on disait, pour deux raisons. La première, c'est que c'est aussi un moyen, puisqu'on est quand même, on parle de fracture, etc., c'est aussi un moyen de continuer à toucher avec des formes différentes les gens, et j'appelais peut-être à une publicité un peu plus responsable, peut-être un peu plus éthique sur le service public avec des règles, tout ça devant être encadré évidemment, pour faire passer peut-être des messages contre les stéréotypes, etc. C'est-à-dire on peut aussi trouver une forme de publicité un peu peut-être différente sur le service public, tout en gardant les codes de la publicité. Et puis, on avait effectivement travaillé avec l'Union des annonceurs qui expliquait qu'ils avaient aussi besoin de cet univers qui n'était pas le même que celui des chaînes privées et qui, effectivement, pouvait permettre à des annonceurs différents...
Mais c'est quoi des annonceurs différents ?
Non, mais là, on était. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, parce que c'est très, il y a une observation très importante que je voulais faire quand même. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que il n'y a pas à être pour ou contre la télévision de manière idéologique, puisque quand on regarde la publicité, quand on regarde par exemple l'Angleterre, la BBC fait des scores supérieurs à 20% sans publicité, et Channel 4 qui a de la publicité fait un score à 5%. Donc la relation avec l'audience n'est pas aussi systématique, on veut bien le dire, quand on simplifie en disant on déconnectera l'audience de la publicité si effectivement on supprime la publicité. Mais ce que je voulais dire de très important, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que ce débat, qui est vraiment extrêmement intéressant, si on rentre dans les détails justement pour prendre les bonnes décisions sans idéologie, n'a absolument aucun intérêt alors que le gouvernement vient d'annoncer, non pas 160 millions, mais ça va être 400 millions, effectivement, d'économies sur le service public, puisque c'est 160 millions d'économies, plus 150 millions de redéploiements, plus 400 millions de glissements, comme l'a annoncé Delphine Arnaud. Donc, à 400 millions, effectivement, d'économies sur le service public, on risque de ne pas pouvoir renforcer l'attractivité et la qualité du service public. On a déjà décidé de supprimer 2 chaînes sur 5. Et donc, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de pouvoir pérenniser le financement public et la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, qui elle-même ne va pas pouvoir vraiment se faire dans de bonnes conditions d'acceptation sociale. On voit bien aujourd'hui, l'acceptation sociale de l'impôt, des taxes est compliquée. Donc aujourd'hui, on est en train de fragiliser, la ressource publique. Donc pour moi, je pense que c'est hors de question même de discuter de la suppression de la publicité à la télévision tant qu'on ne s'est même pas assuré, parce que ça serait quand même près de 300 millions en moins. Donc je pense que le débat
est malheureusement... Oui, donc c'est par dépit en fait, c'est par dépit ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter une taxe aux Français ou augmenter la redevance. Donc laissons la publicité parce que sinon les Français vont râler. C'est par dépit.
Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas rajouter. J'ai dit juste qu'à partir du moment où on ne peut pas entamer ce qui va être compliqué, c'est d'entamer sereinement la réforme nécessaire de la contribution à l'audiovisuel public. Donc j'ai pas dit qu'elle n'était pas nécessaire. Cet élargissement et cette contribution est nécessaire pour être menée sereinement. Il faut pouvoir renforcer la qualité et l'attractivité de l'audiovisuel public. Donc il faut revenir sur les décisions qui ont été prises budgétaires sur l'audiovisuel public pour pouvoir mener effectivement cette réforme qui est absolument nécessaire et qui sera compréhensible si on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas demander aux Français de comprendre l'élargissement d'une contribution si effectivement on a réduit le périmètre et réduit la qualité. Et c'est pour ça que je dis la pub Bien sûr, c'est un sujet important.
Mais d'abord, il y a ce sujet de la réduction, effectivement, des 400 millions d'économies, Jean-Maxence Grandet.
Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric Dumas, au sens où c'est l'enjeu même du service public. La pub, ça a toujours été, de toute façon, une partie du financement, importante, mais pas centrale. Ma réflexion, c'est de dire que derrière ce fantasme, une espèce de pureté du service public, vous savez, c'est ce que Peggy disait de Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main. Moi, j'ai peur que cette pureté, c'est-à-dire on va faire un espace totalement déconnecté des enjeux économiques et des acteurs économiques, c'est-à-dire sans publicité, ça conduise à un affaiblissement. Alors, peut-être que j'ai tort, mais quand on voit effectivement ces difficultés de financement, donc je pense que la solution, elle passe beaucoup plus par une régulation du publicitaire, peut-être qu'il faut sur certaines chaînes et pas sur d'autres, à certains moments et pas sur d'autres, pour certains publics, donc par exemple exclure les enfants, et puis de toute façon il y a des règles que le service public s'applique, le refus de couper les œuvres, et puis de toute façon une pression qui est beaucoup moins importante. Mais souvent, moi je travaille beaucoup avec les acteurs du service public à l'intérieur des entreprises, les gens voient ça aussi comme une forme d'autonomie et un élément parmi d'autres de l'identité. Dans l'identité de leurs médias, que ce soit à Radio France ou à France Télévisions. Voilà, donc il y a un point d'équilibre à trouver après. Et justement, si on veut défendre un service public de qualité qui joue tout son rôle face aux acteurs privés qui ont aussi, bien sûr, leur place.
Merci à tous les deux, Jean-Maxence Granier, Frédéric Dumas. Merci d'avoir été avec nous. C'était un peu court pour un débat.
Je pense
qu'on va y revenir parce qu'il va y avoir de l'actualité et puis beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci à tous les deux. Allez, on passe aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, un documentaire assez étonnant sur la nouvelle star du football français, Kylian Mbappé. Ce sera ce soir
sur M6. Pardon. Juste après le match de France-Uruguay, absolument. Il continue la soirée. Vous allez voir.
Qui est aussi sur M6, absolument.
Comment on passe d'une enfance abondie en Seine-Saint-Denis, donc plutôt pauvre, à être payé maintenant 17 millions d'euros par an. Alors, on a voulu en savoir plus, Valérie. On a téléphoné au réalisateur de ce portrait, Timothée Vienne, et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre.
Écoutez, avec Mbappé, le foot est passé du noir et blanc à la couleur. Et le plus fou, c'est qu'il avait tout prévu dès l'âge de 10 ans. Il avait écrit sur un papier tout ce qu'il allait faire dans sa carrière et les titres qu'il allait conquérir. On a cherché en fait à dévoiler ce qu'on ne sait pas de Kylian Mbappé. Quel enfant il était, chétif, quelle épreuve il a dû surmonter pour devenir à 19 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire. Vous apprendrez par exemple que Mbappé était un enfant hyperactif, intenable en classe, qu'on le surnommait MBB à cause de ses caprices, et qu'il a parfois eu des relations tumultueuses avec ses entraîneurs, mais surtout qu'il ne voulait pas, c'est une révélation, descendre les Champs-Élysées le 16 juillet. Ça s'appelle Les Secrets d'un Surdoué, et c'est ce soir.
Eh bien, écoutez, on va regarder ça donc après le match. Alors ce soir, il y a évidemment Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain sur France 2. La Chance de ma vie, c'est un téléfilm.
Un film avec Virginie Efira et François-Xavier de Maison.
Ouais. C'est un film.
Oui.
C'est pas un téléfilm.
Non,
d'accord.
C'est pas un téléfilm.
D'accord.
La révolte des innocents qu'on a vu hier.
Qu'on a absolument avec Julie Ferrier. Donc
le football sur M6.
Et puis
Et puis, Maria chez les Baudins, chez...
Oui, France-Uruguay, quand même, sur M6. Donc, c'est,
ça va, juste, ça c'est un match de, ça risque de prendre pas mal d'audience.
Je pense que France-Uruguay va être leader.
Combien, combien de téléspectateurs?
Vu que les résultats n'étaient pas terribles, le match n'était pas terrible la dernière fois, ça va peut-être être aux alentours de 6 millions, ouais. 5 millions.
Un peu moins de 6 millions.
Entre moi, 5, 5 je vais et 6. Parier sur la révolte des innocents.
Bon, la révolte des
en
innocents.
En premier, avant le match de foot.
Avec Julie Ferrier, une fiction, donc encore une fois, qui est tirée d'un fait divers. Vraiment, elle est assez formidable.
Moi, je pense
Julie
qu'on
Ferrier.
Peut être surpris.
Et les Rémi. Pouvoirs du corps humain, non, je ne sais pas. Moi, je dis le foot et puis TF1. Ouais,
Le foot et TF1.
Bon, allez, à demain. Suivre. On verra demain. Merci. On se retrouve, nous, dans quelques instants, pour commenter l'actualité. Joël Dicker, absolument. Invité exceptionnel, Joël Dicker, auteur de best-seller qui viendra nous parler de l'affaire Harry Kéber, qui sera diffusée, premier épisode, demain sur TF1 à 20h50. À tout de suite.